Chapitre 5. Elle était très absorbée. Dès qu'on se leva de table, elle m'ordonna de sortir avec elle. Nous prîmes les enfants et nous allâmes dans le parc. J'étais très énervé. Je ne pus me retenir de faire à Paulina cette sotte question. « Mais pourquoi votre marquis de Grillet, le petit Français, ne vous accompagne-t-il plus quand vous sortez? Passe-t-il des jours sans vous adresser la parole ?»« C'est un misérable, » dit-elle d'une voix étrange. Je ne l'avais jamais entendu s'exprimer sur le marquis. Je n'insistais pas, je craignais de trop comprendre. « Et avez-vous remarqué qu'il est en bon terme aujourd'hui avec le général ?»« Vous voulez tout savoir, mais le général est entre ses mains. Tout est aux Français, et si la babouchka ne se dépêche pas de mourir, le Français deviendra propriétaire de toutes les valeurs que le général lui a engagées. » Je l'avais entendu dire, mais je ne croyais pourtant pas qu'il s'agissait de choses si graves. « Mais alors, adieu, mademoiselle Blanche, elle ne sera pas madame la générale. Elle abandonnera le général et il se tuera. »« Possible. Comme c'est bien. Quelle franchise. Au moins, elle n'aura pas dissimulé qu'elle ne l'eût épousé que pour son argent. Pas de cérémonie. Et la babouchka. Es-tu morte, télégramme sur télégramme? Qu'en pensez-vous ? Rendez-vous, c'est de bien gaise, votre perte d'argent qui vous rend si gai. Ne me l'avez pas donné pour le perdre. Je ne puis jouer pour les autres, moins pour vous que pour personne. Je vous avais prévenu que nous ne réussirions pas. Dites-moi, vous êtes très en peine d'avoir tout perdu. Et pourquoi voulez-vous avoir tant d'argent? Et pourquoi ces questions? Ah, vous avez promis de m'expliquer. « Écoutez, je suis absolument convaincu que si je joue pour moi, je gagnerai. J'ai 120 florins et alors vous prendrez tout ce que vous voudrez. » Elle fit une moue dédaigneuse. « Oh, que mon offre ne vous offense pas, je suis pour vous si peu de choses que vraiment vous pouvez accepter de moi-même de l'argent. Un présent de moi est sans conséquence d'ailleurs, j'ai perdu votre argent. » Elle me jeta un rapide coup d'œil, mon ton sarcastique l'irritait. Elle interrompit la conversation. « Mes affaires ne vous regardent pas. Si vous exigez des renseignements, bon ben voilà, j'ai des dettes, voilà tout. J'ai emprunté, il faut que je rende. J'avais la folle pensée qu'en jouant, je gagnerais à coup sûr. Pourquoi ? Je ne sais pas moi-même, je le croyais. » Qui sait, c'était peut-être ma dernière chance. Je n'avais peut-être pas le choix. Peut-être vous fallait-il gagner comme il faut qu'un noyé se raccroche à une paille flottante. Mais ce n'est qu'au moment de se noyer qu'on prend des pailles pour des poutres. Mais pourquoi donc y comptez-vous vous-même? Il y a 15 jours, vous me répétiez sur tous les tons que vous gagneriez nécessairement, qu'il ne fallait pas vous prendre pour un fou et que c'était très sérieux. Et en effet, vous parliez sérieusement, et on ne pouvait rien trouver de plaisant dans vos paroles. « C'est vrai, » répondis-je absorbé, « je suis sûr de gagner quand je jouerai pour moi. » Et pourquoi cette certitude ? Peut-être parce qu'il faut que je gagne. C'est peut-être aussi ma seule issue. Oh, il vous faut donc aussi beaucoup d'argent, mais quelle croyance superstitieuse. N'est-ce pas? Que puis-je faire de beaucoup d'argent, moi? Cela m'est égal. Mais si vous voulez, eh bien, vous, oui. Quel motif sérieux pouvez-vous avoir de désirer une fortune? Qu'en feriez-vous? Vous êtes un homme sans ordre, instable. Je ne vous ai jamais vu sérieux. À propos, interrompis-je, vous avez une dette, une jolie dette, aux Français, n'est-ce pas? Non, mais vous êtes particulièrement insupportable aujourd'hui. Vous n'êtes-vous pas ivre? Vous savez qu'il m'est permis de vous parler très franchement et même de vous interrompre. Je vous le répète, je suis votre esclave et on ne rougit pas devant un esclave. Mais quelle sottise, je ne mets pas du tout votre théorie. Je ne vous ai pas dit, remarquez-le, que je suis heureux d'être votre esclave. J'en parle comme d'un fait indépendant de ma volonté. Soyez franc, pourquoi avez-vous besoin d'argent? Pourquoi avez-vous besoin de le savoir? Comme vous voudrez. Elle releva la tête avec une inexprimable fierté. Vous n'acceptez pas ma théorie de l'esclavage, mais vous la pratiquez. Réponds et ne raisonne pas. Soit, vous me demandez pourquoi j'ai besoin d'argent. Parce que l'argent est la seule puissance irrésistible. Je comprends, mais prenez garde. Vous allez devenir fou. Vous allez jusqu'au fatalisme. Il y a d'ailleurs certainement un but plus particulier. Parlez sans embâche, je le veux. Elle paraissait très de se fâcher, et cela me plaisait infiniment. J'étais ravi qu'elle me questionnât avec tant d'insistance. « Oui, j'ai un but, dis-je, mais je ne puis vous dire lequel. Ou plutôt, c'est tout simplement parce qu'avec de l'argent, je deviendrai, même pour vous, un homme. »« Bah, comment cela ? Comment ? Mais vous ne comprenez pas ? Comment je pourrais parvenir à être pour vous autre chose qu'un esclave ? » Mais ne me disiez-vous pas que cet esclavage faisait votre bonheur ? Moi-même, je le pensais. « Vous le pensiez, m'écriai-je, avec une joie étrange, qu'une telle naïveté me plaît de votre part. Eh bien oui, cet esclavage fait ma joie. Il existe, il est réel, ce délice de descendre au dernier degré de l'avilissement. Je pense souvent que le clown doit receler de mystérieuses jouissances. Mais je veux essayer d'autres plaisirs. Tout à l'heure, à table, devant vous, le général me faisait des remontrances. Les 700 roubles par an qu'il ne me paiera peut-être pas lui en donnent le droit. Le marquis de Grillet lève très haut les sourcils quand il me voit, tout en faisant semblant de ne pas me remarquer. Mais savez-vous que j'ai une envie folle de le tirer un jour par le nez? Quelle gaminerie! Il n'y a pas de situation où l'on ne puisse se tenir avec dignité. La douleur doit nous relever au lieu de nous avilir. Oh, le beau cliché! Mais êtes-vous bien sûr que je puisse me tenir avec dignité? Je suis peut-être un homme digne, mais me tenir avec dignité, c'est autre chose. Tous les Russes sont ainsi, parce qu'ils sont trop richement et trop universellement doués pour trouver aussitôt l'attitude exigée par les circonstances. C'est une question de place publique. Il nous faut du génie pour concentrer nos facultés et les fixer dans l'attitude qu'il faut. Et le génie est rare. Il n'y a peut-être que les Français qui sachent paraître dignes sans l'être. C'est pourquoi chez eux la place publique a tant d'importance. Un Français laisse passer une offense réelle, une offense de cœur sans la relever, pourvu qu'elle soit secrète. Mais une pichenette sur le nez, voilà ce qu'il ne tolère jamais, car cela constitue une dérogation aux lois des convenances. C'est pourquoi nos jeunes filles aiment tant les Français. C'est à cause de leur jolie attitude. Le coq gaulois, pour moi, vous savez, cette attitude-là. Dirais-je, je ne suis pas une femme et peut-être le coq a-t-il du bon. Mais est-ce que je ne vais pas trop loin? Si vous ne m'arrêtez pas. Quand je vous parle, je voudrais vous dire tout, 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 et je perds un peu le respect. Je n'ai pas d'attitude, moi, je vous le confesse, je n'ai même aucune qualité. Tout est arrêté en moi, tout est mort, vous savez pourquoi. Je n'ai aucune pensée humaine dans la tête. Je ne sais plus ce qu'on fait sur la terre, ni en Russie, ni ici. Je viens de Dresde, n'est-ce pas? Eh bien, je n'ai pas vu cette ville. Vous savez ce qui m'occupe, comme je n'ai aucune espérance, comme je suis à vos yeux un zéro, je ne crains pas de vous parler franchement. Je ne vois que vous partout, et le reste m'est égal. Sans que je sache pourquoi je vous aime, il se peut très bien que vous ne soyez pas jolie du tout. Imaginez-vous que je ne sais vraiment pas si vous êtes jolie ou laide. Pour le cœur, il est certainement mauvais, pour l'intelligence, elle est sans noblesse. C'est sans doute pour cela que vous comptez m'acheter. Vous achetez, m'écriai-je, que dites-vous? Vous vous êtes oublié. Si ce n'est pas moi que vous voulez acheter avec les grosses sommes que vous gagnerez à la roulette, c'est au moins ma considération. Non, ce n'est pas tout à fait cela. Je vous ai déjà dit qu'il m'est difficile de m'expliquer. Ne vous fâchez pas de mon bavardage. Vous savez bien qu'on ne se fâche pas avec moi, je ne suis qu'un fou. Et puis, fâchez-vous s'il vous plaît. Chaque soir, là-haut dans ma chambre, il me suffit de me rappeler le frôlement de votre robe pour être prêt de me ronger les poings. Cela vous fâche encore? Bon, je suis votre esclave, profitez-en, profitez. Il est probable que je vous tuerai un jour, je vous tuerai non pas parce que j'aurai cessé de vous aimer ou parce que je serai jaloux, mais simplement parce que j'ai parfois envie de vous manger. Vous riez. Oh, je ne ris pas du tout, dit-elle avec indignation, et je vous ordonne de vous taire. Elle s'arrêta, suffoquée par la colère. Oh Dieu, je ne sais pas si elle est jolie, mais que j'aime à la voir droite, immobile, ainsi devant moi, tout irritée. Et c'est pourquoi je me plais souvent à provoquer sa colère. Peut-être l'avait-elle remarqué, et peut-être se fâchait-elle par complaisance. Je lui soumis aussitôt cette observation. « Vous êtes un être de boue !» s'écria-t-elle avec dégoût. « Oh, ça m'est égal. Mais savez-vous qu'il est dangereux pour vous de vous promener seul avec moi? Je suis souvent tenté de vous battre, de vous estropier, de vous étrangler. Croyez-vous que je reviendrai là? Ou bien j'aurai un accès de fièvre chaude? Que peut me faire votre colère? J'aime sans espoir, et si je vous tue, il faudra que je me tue aussi. Je me tuerai alors le plus lentement possible, pour avoir à moi, je veux dire pour ne pas partager avec vous au moins cette douleur. Après cela, comment ne serais-je pas fataliste? Vous vous rappelez que sur le Schellenberg, je vous ai dit un mot de vous et je me jette en bas. Croyez-vous que je m'y serais jeté? Bon, quel bavardage stupide! Stupide ou spirituel, c'est tout un pourvu que je parle. Car auprès de vous, il faut que je parle, que je parle. Quand vous êtes là, je perds tout orgueil. Et pourquoi vous aurais-je forcé à vous précipiter du Schellenberg? C'était tout à fait inutile. Oh, quelle superbe intonation! Comme vous avez bien dit cela! Que d'offense dans ce magnifique inutile! Oh, je vous comprends très bien. Inutile, dites-vous? Mais le plaisir est toujours utile. Et n'est-ce pas un plaisir que l'abus du pouvoir? On écrase une mouche, on jette un homme du haut du Schellenberg. Voilà des plaisirs. L'homme est despote par nature et la femme bourreau. Vous particulièrement, vous aimez beaucoup à torturer. Elle m'observait avec une attention profonde. Ma physionomie exprimait sans doute toutes les sensations absurdes qui me possédaient. Je sentais mes yeux se gonfler de sang et l'écume mouiller mes lèvres. Certes, je me serais jeté du Schellenberg. Certes, certes, si ses lèvres avaient prononcé le mot « fête », sans que sa conscience s'en fût doutée, je me serais jeté. Je me rappelle mot pour mot cette conversation. Mais pourquoi vous croirais-je, dit-elle sur un ton où il y avait tant de mépris, de ruse et de vanité que... Oh mon Dieu, je l'aurais tué sans peine en ce moment. Je l'aurais très volontiers assassiné. N'êtes-vous pas très lâche ? Reprit-elle tout à coup. Peut-être bien, oui, je me suis demandé jamais cela. Et si je vous disais, tuez cet homme, le tueriez-vous ? Qui ? Qui je voudrais ? Ah ben, le petit français, n'est-ce pas ? Ah, ne m'interrogez pas, répondez. Tueriez-vous celui que je vous désignerais ? Je veux savoir si vous parliez sérieusement tout à l'heure. Elle attendait si sérieusement, avec tant d'impatience, ma réponse, que je me sentis troublé. Me direz-vous enfin ce qui se passe ici ? M'écriai-je. Avez-vous peur de moi ? Je vois très bien qu'une catastrophe est imminente. Vous êtes la belle-fille d'un homme ruiné, fou et avili par une passion irrésistible. Et vous voilà sous l'influence mystérieuse de ce misérable Français. Et maintenant, vous me posez sérieusement une pareille question. Encore faut-il que je sache. Ne pouvez-vous me parler une fois avec franchise ? Non, il ne s'agit pas de cela, je vous pose une question. Répondez-moi. Eh bien, oui, 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 certainement oui, je le tuerai, mais l'ordonnez-vous aujourd'hui ? Qu'en pensez-vous ? Croyez-vous que j'aurais pitié de vous ? Non, je donnerai l'ordre et resterai caché. Acceptez-vous ? Pourrez-vous supporter cela ? Oh, pas vous, pas un être comme vous. Vous tuerez peut-être si je vous l'ordonne, mais ensuite vous perdrez la tête, une si faible tête. Et puis vous me tuerez pour avoir osé vous envoyer. Quelque chose comme un coup me frappa au cerveau. Certes, même alors, je considérais sa question comme une plaisanterie, comme une provocation. Et pourtant, elle avait parlé trop sérieusement. J'étais tout de même stupéfait qu'elle en fût venue à s'avouer à ce point son pouvoir sur moi, à oser me dire « Cours à ta perte, moi je resterai dans l'ombre. » Il y avait dans ses paroles un cynisme vraiment inouï. Mais comment se comporterait-elle ensuite avec moi ? Une telle complicité élève l'esclave jusqu'au maître. Et quoique notre conversation me parût chimérique, mon cœur tressaillait. Tout à coup, elle éclata de rire. Nous étions assis sur un banc, les enfants jouaient auprès de nous, non loin des équipages qui stationnaient. La foule circulait devant nous. Voyez-vous cette grosse femme ? Reprit Paulina. C'est la baronne Wurmbergelm, il n'y a que 3 jours qu'elle est arrivée. Voyez-vous son mari, ce Prussien, long et sec, armé d'une canne ? Vous rappelez-vous comme il nous toisait avant-hier ? Allez tout de suite aborder cette baronne, ôtez votre chapeau et dites-lui quelque chose en français. Pourquoi faire ? Vous juriez de vous jeter du Schlagenberg. Vous juriez que vous étiez prêt à tuer qui je voudrais. Au lieu de toutes ces tragédies, je ne vous demande qu'une comédie. Allez, sans aucun prétexte, je veux voir le baron vous donner des coups de canne. Vous me défiez ? Vous pensez que je ne le ferai pas ? Oui, je vous défie. Allez, je le veux. C'est une fantaisie ridicule, mais j'y vais. Pourvu que cela ne cause pas de désagréments au général, et que le général ne vous ennuie pas à cause de cela. Ma parole, j'y vais. Mais quelle fantaisie, aller offenser une femme. Je vois bien que vous n'êtes qu'un bavard, dit-elle avec mépris. Vous avez les yeux gonflés de sang, et c'est tout. Peut-être avez-vous trop bu à dîner. Croyez-vous donc que je ne comprenne pas combien c'est bête et que le général se fâchera ? Mais je veux rire, voilà tout. Vous faire offenser une femme, oui, et vous faire battre, Oui, je le veux. Lentement, j'allais accomplir ma mission. Certes, c'était très bête, mais pouvais-je ne pas me soumettre? En m'approchant de la baronne, un souvenir me revint. Et puis, j'étais comme ivre, un écolier ivre, comprenez-vous? Chapitre 6. Voilà 2 jours de passé depuis cette fameuse sottise. Que de bruit, que de cris, et je suis la cause de tout cela. Mais j'y ai trouvé mon profit, que j'ai ri. Je ne puis pourtant m'expliquer comment tout cela est arrivé. Suis-je fou? Je le crois. Et puis je ne suis pas encore bien loin des bancs de l'école. Et j'ai pris plaisir, je suppose, à cette grossière espièglerie. Cette Paulina, mais toujours elle. Peut-être ai-je agi par désespoir. En somme, qu'est-ce que j'aime en elle? Elle me semble jolie. Elle est svelte, un peu trop mince peut-être. On pourrait la ployer en deux et la nouer comme un ruban. Elle a tout ce qui fait souffrir. Précisément tout ce qui fait souffrir. Ses cheveux sont d'un blond roux. Ses yeux sont de véritables yeux de chat. Mais quelle fierté dans son regard! Il y a 4 mois, quand je suis entré dans la famille un soir, elle causait seule dans le salon avec De Grillet, et elle le regardait avec un tel air que... Quand je suis rentré chez moi pour me coucher, je me suis imaginé qu'elle venait de le souffleter. Mais c'est depuis ce soir-là que je l'aime. Mais arrivons au fait. Je descends donc dans le sentier, je m'arrête au beau milieu, attendant la baronne et le baron. À 5 pas, j'ôte mon chapeau et je salue. Je me rappelle que la baronne portait une robe de soie gris-perle d'une ampleur extraordinaire, avec des volants, une crinoline et une traîne. Toute petite, cette baronne très grosse, avec un menton si prodigieux qu'il couvrait toute sa gorge. Le visage rouge, les yeux petits, méchants, insolents. Elle marchait comme si elle faisait honneur à la terre en la touchant du pied. Le baron a un visage composé de 1000 petites rides, des lunettes, 45 ans. Ses jambes commencent à sa poitrine, signe de race. Orgueilleux comme un paon et maladroit, le type de bouton. Je vis tout cela en 3 secondes. Mon salut et mon coup de chapeau arrêtèrent à peine leur attention. Le baron fronça légèrement le sourcil, et la baronne venait droit à moi sans me voir. « Madame la baronne, dis-je très distinctement, très haut, et en détachant chaque mot, j'ai l'honneur d'être votre esclave. » Puis je saluai, je remis mon chapeau sur ma tête, et en passant auprès du baron, je tournai poliment mon visage vers lui et lui adressai un sourire significatif. Paulina m'avait ordonné d'ôter mon chapeau, mais l'espièglerie était de mon initiative. Le diable sait qui me poussait. Je me sentais comme précipité d'une montagne. « Hein ?» grogna le baron en se tournant vers moi, avec un étonnement mêlé de colère. Je m'arrêtai en continuant de sourire. Il était stupéfait et levait ses sourcils jusqu'à la racine des cheveux. La baronne se retourna aussi de mon côté, très surprise, encore plus courroucée. Les passants commençaient à s'attrouper. « Hein ?» grogna de nouveau le baron en redoublant d'étonnement et de colère. « Yavol, c'est cela, traînai-je en continuant à le regarder dans le blanc des yeux. « Zinzirazen, êtes-vous fou ? » s'écria-t-il en brandissant sa canne. Mais il resta le bras en l'air, plus tremblant de peur que de colère. C'était, je crois, ma toilette qui l'embarrassait. J'étais mis à la dernière mode comme un homme du meilleur monde. « Yavrol !» criai-je tout à coup, et de toutes mes forces, en appuyant la façon des Berlinois, qui emploient à chaque instant dans la conversation cette locution, et qui traînent sur la lettre « A » pour exprimer les différentes nuances de leur pensée. Le baron et la baronne se retournèrent vivement et s'enfuirent épouvantés. Je revins sur mes pas, et allait, sans me presser, vers Paulina. Mais 100 pas avant de l'atteindre, je la vis se lever avec les enfants et se diriger vers l'hôtel. Je la rejoignis près du perron. « Ben, j'ai accompli la bêtise, lui dis-je. »« Eh bien, maintenant, débrouillez-vous, » répondit-elle sans me regarder. Et elle disparut dans le corridor. Toute la soirée, je me promenais dans la forêt. Dans une petite izba, je mangeais une omelette. On me prit pour cette idylle 1,5 thaler. À 11 heures seulement, je rentrais. On me demanda aussitôt de la part du général. Il m'attendait dans la grande chambre, celle où il y a un piano. Il se tenait debout, de grillette et nonchalamment, assis sur le divan. « Qu'avez-vous fait, monsieur ?» commença le général en prenant une attitude très majestueuse. « Permettez-moi de vous le demander. » « Abordez donc directement l'affaire, général. Vous parlez probablement de ma rencontre d'aujourd'hui avec un Allemand. »«
Avec un Allemand ? Mais le baron Vorkenmergel est un personnel important et vous avez offensé sa femme. »«
Oh, pas le moins du monde. »
« Mais vous leur avez fait peur, monsieur !» s'écria le général.
« Oh, pas le moins du monde !» Déjà à Berlin, mon oreille s'était habituée à cet interminable « Jawohl » qu'il traîne d'une manière si dégoûtante. En rencontrant dans l'allée cette nichée de baron, je ne sais pourquoi le « Jawohl » me revint à l'esprit et m'enragea. De plus, voilà déjà 3 fois que la baronne me rencontre et 3 fois qu'elle marche droit vers moi, comme si je devais nécessairement m'effacer sur son passage. Et j'ai mon amour-propre. J'ai ôté mon chapeau, très poliment, je vous jure. Et j'ai dit, « Madame la baronne, je suis votre esclave. » Et quand le baron s'est mis à crier, « Hein ?» je n'ai pu faire autrement que de me mettre à hurler, « Jawohl !» Et je l'ai dit 2 fois, la première fois très simplement, et la seconde en criant de toutes mes forces. J'étais ravi de mon explication, et j'avais plaisir à tartiner toute cette histoire aussi stupidement que possible, et plus ça durait, plus j'y prenais goût. « Oh, ça !» s'écria le général. « Vous moquez-vous de moi ?» Il expliqua en français à de Grillet que décidément je cherchais une affaire. De Grillet sourit avec mépris et haussa les épaules. Pour Dieu, n'ayez pas cette pensée, j'ai fait une sottise, j'en conviens. C'est une inconvenante espièglerie, mais ce n'est rien de plus. Je m'en repens d'ailleurs, mais j'ai une excuse. Voilà 2 ou 3 semaines que je ne vais pas bien. Je me sens nerveux, irrité, fantasque, malade. Et je perds tout empire sur moi-même. Mais à parole, j'ai parfois envie de prendre à partie le marquis de Grillet qui est là. Et ben, je ne terminerai pas, ça pourrait l'offenser. En un mot, ce sont des symptômes morbides. J'ignore si la baronne voudra bien accepter mes excuses, car j'ai l'intention de lui faire des excuses. Je ne pense même pas, entre nous, qu'elle les accepte, d'autant plus que ces derniers temps, on a beaucoup abusé au point de vue criminel de la maladie comme circonstance atténuante. L'avocat et le médecin s'entendent pour découvrir un fou sous le masque d'un meurtrier. Mais le baron et la baronne sont de l'ancien temps. De plus, ce sont de grands seigneurs. Ils ignorent les progrès de la science juridique ou médicale et de telles explications seraient malvenues auprès d'eux. Qu'en pensez-vous, général ? Assez, monsieur. Je vais une fois pour toutes me débarrasser de vous. Je vous défends de faire aucune excuse à la baronne. Ce serait de votre part une nouvelle offense. Le baron a appris que vous étiez de ma maison et nous nous sommes expliqués ensemble. Un peu plus, il me demandait satisfaction. Comprenez quoi, vous à quoi vous vous exposiez, monsieur ? Je lui ai donné ma parole qu'aujourd'hui même vous auriez cessé de m'appartenir. Permettez, général, est-ce bien lui qui exige que vous vous défassiez de moi, puisque je suis de votre maison comme vous daignez l'avouer ? Non, mais je me suis cru en devoir de lui fournir cette réparation, et il s'en est contenté. Nous nous séparons, monsieur. Je vous devais encore 43 florins, les voici. Adieu. À partir d'aujourd'hui, nous sommes l'un pour l'autre des étrangers. Excepté les ennuis, je n'ai rien eu de vous. Je vais avertir le majordome que dorénavant, je ne répondrai plus de vos dépenses à l'hôtel. J'ai l'honneur d'être votre serviteur. Je pris l'argent. Je saluai le général et lui dis très sérieusement « Général, la chose ne peut se terminer ainsi. Je regrette beaucoup de vous avoir causé des désagréments, mais veuillez observer que vous avez eu tort de répondre de moi devant le baron. Que signifie l'expression « cet homme est de ma maison » ? Je suis précepteur chez vous. Je ne suis ni votre fils, ni votre pupille. Vous n'avez pas à répondre de mes actions. J'ai 25 ans. Je suis licencié et noble. Je vous suis étranger. Je constitue moi-même une individualité juridiquement responsable. Il faut tout le cas que je fais de vos innombrables qualités pour que je renonce à vous demander à vous-même et tout de suite une réparation pour l'audace que vous avez eu de répondre pour moi. » Le général était tellement abasourdi qu'il ouvrit la bouche, fit effort pour parler, étendit les mains, puis tout à coup se tourna vers le français et lui expliqua que je parlais de le provoquer en duel. Le français se mit à ricaner. « Mais quant au baron, continuai-je sans me laisser déconcerter par l'attitude de M. de Grillet, je n'ai pas du tout l'intention de laisser passer les choses ainsi. Et puisque vous vous êtes mêlé de cette affaire, général, en consentant à écouter les plaintes du baron, j'ai l'honneur de vous annoncer que pas plus tard que demain matin, j'irai demander au baron en mon nom pourquoi, ayant affaire à moi, il s'est adressé à une autre personne, comme si je n'étais pas digne de lui répondre. » Ce que je pressentais arriva. Ce nouveau projet mit le comble à l'effroi du général. « Comment, vous avez l'intention de continuer cette maudite affaire ? N'ayez pas cette audace, monsieur, ou bien je vous jure. Oh, il y a des autorités ici, et moi, en un mot, mon rang, et celui du baron, enfin, on vous arrêtera, on vous expulsera par voie de police, comprenez-vous ? Général, répondis-je toujours calme, on ne peut pas m'arrêter sans motif. Vous ne savez pas encore dans quels termes je parlerai au baron. Vous vous inquiétez inutilement. Pardieu, Alexis Ivanovitch, renoncez à cette intention ridicule, dit le général, devenu tout à coup suppliant. Il aurait même pris mes mains dans les siennes. Qu'en sortira-t-il des désagréments ? Convenez-vous même que je suis forcé de me tenir ici d'une certaine façon, surtout maintenant. Or, vous ne connaissez pas, vous ne pouvez connaître ma position. Quand nous partirons d'ici, je suis tout disposé à vous reprendre chez moi, mais pour l'instant... » « Eh bien, en un mot, vous comprenez la chose, » s'écria-t-il en faisant un geste de désespoir. « Alexis Ivanovitch, vous comprenez la chose. » Je me retirai en priant le général de ne pas s'inquiéter, en assurant que tout se passerait très bien. À l'étranger, les Russes sont quelquefois lâches. Ils craignent trop le qu'en dira-t-on. Ils s'inquiètent beaucoup de savoir si une chose est convenable ou non. Ils ont l'âme dans un corset, surtout ceux qui prétendent à une situation en vue. Mais le général m'a laissé entendre que sa situation personnelle est particulièrement difficile. Et c'est précisément à cause de cette situation particulièrement difficile qu'il était devenu tout à coup si lâche et avait changé de ton avec moi. Mais le lendemain, ce sot pouvait changer encore et s'adresser aux autorités. Il fallait donc me tenir sur mes gardes. Je n'avais d'ailleurs aucun intérêt à irriter le général. Mais je voulais me venger de Paulina et l'amener à me prier elle-même de m'arrêter, car mes imprudences pouvaient finir par la compromettre. De plus, je ne voulais pas, devant elle, reculer et passer pour une poule mouillée. Ce n'était pas au baron à se servir de sa canne avec moi. Je tenais à me moquer de tous et à me tirer en homme de cette affaire. Chapitre 7. Ce matin, j'ai appelé le garçon et demandé que désormais on fît un compte à part pour moi. J'ai conservé ma chambre, qui n'était pas trop chère. D'ailleurs, je possède 600 florins et, qui sait, peut-être une fortune. Chose étrange, je n'ai encore rien gagné, je ne puis m'empêcher d'avoir des pensées de millionnaire. Je me proposais, malgré l'heure matinale, d'aller chez M. Astley, à l'hôtel d'Angleterre, quand De Griers entra chez moi. C'était la première fois qu'il me faisait tant d'honneur. Pendant ces derniers temps, nous avions eu des rapports un peu tendus. Il me méprisait et je le détestais. J'avais des motifs particuliers pour le détester. Sa visite m'étonna donc beaucoup. Il me salua très poliment, me fit des compliments banals sur mon installation, et me voyant le chapeau à la main, me demanda si j'allais me promener. Je lui répondis que je me rendais chez M. Astley pour affaires. Aussitôt, son visage devint soucieux. De Griers est comme tous les Français, gai, aimable quand il le faut ou quand cela rapporte, et terriblement ennuyeux quand la gaieté et l'amabilité ne sont pas nécessaires. Le Français est très rarement aimable par tempérament, il ne l'est presque jamais que par calcul. S'il sent la nécessité d'être original, sa fantaisie est ridicule et affectée. Au naturel, c'est l'être le plus banal, le plus mesquin, le plus ennuyeux du monde. Il faut être une jeune fille russe, enfin je veux dire quelque chose de très neuf et de très naïf, pour s'éprendre d'un Français. Il n'y a pas d'esprit sérieux qui ne soit choqué par l'affreux chic de garnison qui fait le fond de ses manières convenues une fois pour toutes, par cette amabilité mondaine, par ce faux laisser-aller et cette insupportable gaieté. Je viens pour affaire, commença-t-il d'un ton dégagé. Je suis l'envoyé ou, si vous préférez, l'intermédiaire du général. Il m'a expliqué la chose en détail et je vous avoue. Écoutez, monsieur De Griers, interrompis-je, je vous agrée comme intermédiaire. Je ne suis qu'un Blutschitel et je ne suis pas l'ami de la maison et nous ne font pas de confiance. Mais dites-moi, êtes-vous de la famille? Car enfin, vous prenez intérêt à tout et à tous, vous êtes mêlé à tout, et tout de suite, c'est vous qu'on choisit pour l'intermédiaire. Ma question lui déplut. Je suis lié avec le général par des intérêts communs et par d'autres considérations particulières, dit-il sèchement. Le général m'a envoyé vous prier de renoncer à vos intentions d'hier. Vos inventions sont très spirituelles, mais aussi très malencontreuses. Le baron ne vous recevra pas, et ce ne sont pas les moyens de se débarrasser de vous qui lui manqueront. Dès lors, pourquoi vous entêter? Le général vous a promis hier de vous reprendre la première occasion favorable. Il vous autorise aujourd'hui à lui réclamer vos appointements sans le servir. C'est assez convenable, n'est-ce pas ? Je lui répondis avec calme qu'il se trompait, que le baron m'écouterait. Je le priai ensuite de me dire franchement s'il était venu chez moi dans un autre but encore et s'il ne désirait pas apprendre quel parti j'avais pris. Mais sans doute il est assez naturel que le général veuille savoir comment vous agirez. Et pour m'écouter, il s'assit dans une position très commode, la tête renversée sur le dossier de son fauteuil. Je fis tous mes efforts pour lui laisser croire que je prenais la chose au sérieux. Je lui expliquai que le baron m'avait offensé en s'adressant au général comme si je n'étais qu'un domestique et qu'il m'avait fait priver de ma place, que naturellement je me sentais blessé, mais que je savais comprendre les différences de position sociale et d'âge. Je me tenais à grand-peine pour ne pas éclater de rire. « Je ne veux pas commettre une légèreté de plus, ajoutai-je. Je n'irai pas demander réparation au baron. Mais je crois avoir le droit d'offrir mes excuses à la baronne. Pourtant, je renonce même à cela, les procédés offensants du général et du baron ne me le permettant plus. Tout le monde croirait que j'ai fait des excuses dans le but de rattraper ma place. » Tout compte fait, il faudra donc que j'exige, moi, des excuses du baron, mais dans une forme assez modérée. Par exemple, qu'il me dise « Je n'ai pas voulu vous offenser », et alors, à mon tour, les mains libres, le corps ouvert, je lui offrirai mes excuses. En un mot, terminai-je, je demande que le baron me délie les mains. Oh, fi, quelle subtilité, quelle finesse exagérée! Mais avouez donc, monsieur, que vous faites tout cela pour ennuyer le général. Ou peut-être avez-vous quelque autre projet, mon cher monsieur? Monsieur Alexis, n'est-ce pas? Mais, mon cher marquis, en quoi cela vous intéresse-t-il? Eh bien, le général. Et le général, en quoi cela l'intéresse-t-il? Il manifestait hier quelque inquiétude, mais comme il ne m'a rien expliqué. Il existe ici une circonstance particulière, interrompit M. de Griet, sur un ton suppliant où le mécontentement perçait de plus en plus. Vous connaissez Mademoiselle de Comminges, c'est-à-dire Mademoiselle Blanche. Oui, Mademoiselle Blanche de Comminges et sa mère, Madame Veuve de Comminges. Vous savez que le général est amoureux et que le mariage est proche. Imaginez l'effet désastreux d'un scandale, d'une histoire. Je ne vois ici ni scandale, ni histoire concernant ce mariage. Mais le baron est si irascible, un caractère prussien, vous savez, il fera une querelle d'allemand. Alors cela ne me regarde plus, je ne suis plus à la maison du général. Je faisais tout mon possible pour qu'il ne comprît rien à ce que je lui disais. Et d'ailleurs, s'il est entendu que Mademoiselle Blanche épouse le général, qu'attend-on? Et pourquoi cachait-on ce projet aux gens de la maison? Je ne peux pas vous... Enfin, c'est pas encore... Enfin, vous savez qu'on attend des nouvelles de Russie. Le général a besoin d'arranger ses affaires. Ah oui, la babouchka. De Griet me regarda avec haine. En tout cas, reprit-il, je compte sur votre obligeance, sur votre esprit, sur votre tact. Certainement, vous ferez cela pour cette famille. Vous êtes aimé comme un parent, estimé. Mais enfin, j'ai été chassé. Vous prétendez maintenant que c'est pour la forme. Mais convenez que si on vous disait « Je veux pas te tirer les oreilles, mais tu dois dire partout que je te les ai tirées », vous n'en seriez pas flatté. Alors, Si aucune prière n'a d'effet sur vous, reprit sévèrement et avec hauteur, permettez-moi de vous dire qu'on prendra d'autres mesures. Il y a ici un gouvernement, on vous chassera aujourd'hui même, que diable! Un blanc-bec tel que vous, provoquer en duel un personnage comme le baron. Mais soyez convaincu que personne ici ne vous craint. Mais j'en suis sûr, vous ne croyez pas que le général ose jamais vous faire jeter à la porte par ses laquais? Oh, d'abord, je ne m'y exposerai pas, répondis-je avec un calme extraordinaire. Vous vous trompez, monsieur de Grillet. Tout se passera mieux que vous le pensez. J'irai chez monsieur Asselet, je le prierai d'être mon second, il même ne refusera pas. Il ira chez le baron qui le recevra. Oh, je ne suis qu'un outchitel, un subalterne. Mais monsieur Asselet est le neveu de Lord Pibroch. Tout le monde sait cela. Et Lord Pibroch est ici. Soyez sûr que le baron sera poli avec monsieur Asselet. D'ailleurs, s'il manquait de convenance, monsieur Asselet en ferait une affaire personnelle. Et vous savez comme les Anglais sont entêtés. Il enverra au baron un ami, et vous savez qu'il a de très bons amis. Quant à maintenant, de Grillet avait tout à fait peur, car ce que je disais était très vraisemblable et prouvait que j'avais vraiment l'intention d'avoir une affaire. Mais, oh, je vous en supplie, laissez donc cela, reprit-il très doucement. On croirait vraiment que ça vous amuse. Ce n'est pas une satisfaction, c'est un scandale que vous cherchez. Je conviens d'ailleurs que c'est amusant et spirituel, c'est peut-être même ce qui vous plaît. Mais enfin, se hâta-t-il d'ajouter, en voyant que je prenais mon chapeau, j'ai une lettre à vous remettre de la part d'une personne. Lisez, on m'a enjoint d'attendre la réponse. Et il me remit un petit billet plié et cacheté, où j'ai reconnu l'écriture de Paulina. « Il me revient, m'écrivait-elle, que vous avez l'intention d'éterniser cette histoire. Je vous prie d'y renoncer. Tout cela sottise. J'ai besoin de vous et vous avez juré de m'obéir. Souvenez-vous du Schlagenberg. Obéissez, je vous prie. S'il le faut, je vous l'ordonne. Votre P. Post-scriptum. Si je vous ai offensé hier, pardonnez-moi. » Tout était changé. Je me sentais pâlir et trembler. Le Français me regardait en dessous et évitait de rencontrer mon regard pour ne pas ajouter à ma confusion. J'aurais préféré qu'il recommençât à se moquer de moi. « Bien... « Dites à mademoiselle Paulina qu'elle se tranquillise. Mais permettez-moi de vous demander pourquoi vous m'avez fait attendre si longtemps ce billet. Au lieu de tant bavarder, il me semble que vous auriez pu faire de commencer par là. Oh, je voulais... Oh, tout cela est si étrange que vous devez m'excuser. Je pensais connaître plus vite vos intentions. » En tout cas, j'ignore la teneur du billet, je pensais que j'aurais toujours le temps de vous le remettre. Allons donc, on vous a dit de me remettre ce billet qu'à la dernière extrémité, et vous pensiez tout arranger de vive voix. C'est cela, n'est-ce pas? Parlez franchement, monsieur de Grillet. Peut-être, dit-il en me regardant d'un air très singulier. Je pris mon chapeau. Il s'inclina et sortit. Il me semble avoir un sourire sur ses lèvres. « Nous réglerons un jour nos comptes, Franzuzichka, » grognai-je en descendant. Je ne pouvais réfléchir à rien. Il me semblait qu'on venait de me frapper à la tête. L'air me rafraîchit un peu. 2 minutes après, deux pensées me saisirent. La première, qu'on faisait une tragédie de toutes ces bagatelles, pourquoi? Et la seconde, que le petit Français avait décidément sur Paulina une étrange influence. Il suffit d'un mot de lui elle fait tout ce qu'il veut. Elle écrit, elle descend jusqu'à me prier. Naturellement, leurs relations sont très mystérieuses. Elles ont été telles dès le premier jour, mais depuis quelque temps, j'observe que Paulina me méprise davantage. Son mépris va jusqu'au dégoût. Et j'ai observé aussi que Le Grillet la regarde à peine. Il est tout juste poli. Cela signifie tout simplement qu'il la tient, qu'il la domine, qu'il l'a enchaînée.